Du coup, la deuxième partie, c'est des sujets généraux. Et on avait prévu de commencer par Stéphane, qui voulait nous parler des business models de l'open source, parce que c'est bien gentil, comment c'est bien gentil de tout libérer et tout, tel un hippie nouvelle génération, mais comment on continue à faire du business? Comment on peut vivre de sa créativité en étant dans le libre?
Ouais, ça me semble une question importante et c'est une question en fait auquel les gens qui font du logiciel sont confrontés depuis longtemps. Et en fait, on est dans un temps où il y a beaucoup de choses qui sont en train de devenir immatérielles. On a conscience avec le MP3, on a conscience avec les PDF, on a conscience aussi avec des choses qui font des transgressions comme l'impression à la demande, dans lequel finalement, si je veux avoir un livre, c'est-à-dire même cet objet physique entre les mains, eh bien il suffit d'avoir eu une copie numérique, ce qui fait qu'en fait, quelque part, lorsqu'on fabrique du logiciel libre, de l'open source, eh bien on a le droit de copier, c'est immatériel, et ce qui fait que les gens qui sont des créateurs passe du temps, de l'énergie pour réaliser et distribuer des produits qui sont distribuables gratuitement. Ça pose quand même une question, quoi, de la rémunération. Du coup, j'avais envie de faire un petit tour rapide avec vous de comment les créateurs, les entreprises qui touchent à l'open source gagnent de l'argent. Comment elles se financent, hein, et comment les créateurs des logiciels libres sont rémunérés. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mystère. Il faut vendre quelque chose à quelqu'un. Enfin, pardon, il faut vendre quelqu'un à quelque chose. Oh là là, mais je dis n'importe quoi. Pardon. Il faut vendre quelque chose à quelqu'un. C'est bien ce que je voulais dire et j'avais l'impression d'avoir dit le contraire. Bref, excusez-moi, excusez
Non, mais tu
ce
peux
humour.
tromper une fois 1000 personnes.
Complètement. C'est affreux. Vendre quelqu'un à quelque chose, j'ai l'impression de voir certains business models aussi qui peuvent exister et qui peuvent avoir été cités précédemment. Le premier niveau, c'est dire je fais du libre et je suis hobbyiste. J'avoue, j'ai un vrai job à côté. Hein. Je travaille par passion, je ne vais pas chercher à vivre de cette passion sur mes projets libres. Et j'ai un vrai job qui paye mon loyer. C'est un peu la réponse zéro qu'on a envie de dépasser. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre schéma? Un schéma en fait qui est très très courant, c'est le schéma de dire en fait je fais partie d'une boîte qui à un moment ou à un autre a besoin de ce logiciel libre et qui va soit l'avoir créé, soit le prendre. Mais en fait, cette boîte-là ne vit pas de la commercialisation de ce logiciel libre, elle fait autre chose.
C'est
Et
un
en fait,
logiciel dont elle se sert en interne, tu veux dire?
ouais, ce logiciel, en fait, il peut être utile en interne, par exemple. Et du coup, en fait, moi, je peux être payé pour faire la maintenance en interne. Et puis, de temps en temps, je vais aller contribuer des modifications. Mettre upstream les modifications, c'est le terme qu'on utilise pour dire que on remonte vers les auteurs initiaux, les modifications que j'ai pu faire. Et ça, en fait, ça peut avoir des tas de bonnes propriétés, ce modèle-là. Le premier point, en fait, c'est une propriété de mutualisation des coûts. Finalement, ces logiciels dont j'ai besoin pour faire tourner mon entreprise, s'ils peuvent être, si je peux avoir un coût de licence zéro, s'ils peuvent être maintenu par tout un tas d'autres gens, ça peut être bien. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme ça que des logiciels en fait sont devenus des espèces de ce qu'on peut appeler une facilité pour se remettre sur un néologisme qui reprend de l'anglais, c'est-à-dire une espèce de plateforme commune dans laquelle des gens vont s'entendre et dans lequel en fait ils vont vouloir le faire dans un cadre qui va être gratuit pour eux.
Excuse-moi Stéphane, de ce que je comprends de ce truc, c'est par exemple moi je suis une entreprise, j'ai besoin d'un logiciel. Si je fais appel à un développeur, parce que bon aujourd'hui dans l'entreprise moderne c'est finalement assez rare qu'on, enfin dès que t'es dans une certaine taille d'entreprise ou dans certains enjeux, c'est assez rare que t'achètes un logiciel tout fait. En fait, tu vas acheter un développement logiciel, quoi. C'est-à-dire que tu vas demander à des développeurs de te concevoir une solution qui est personnalisée pour les problèmes que t'as. Et c'est vrai que si tu travailles avec des développeurs qui sont en propriétaire, des fois tu vas peut-être payer un développement qui est quasiment un start from scratch, quoi. Ils partent de zéro et ils construisent un truc rien que pour toi. En termes de temps et de coût, ça va être énorme. Tandis que si tu dis, bah, je vais plutôt payer quelqu'un qui va utiliser un logiciel libre et qui va juste en fait le personnaliser pour se rapprocher de mes besoins. Je vais gagner de l'argent, enfin, ça me coûtera moins cher et ça prendra moins de temps.
Ouais.
Est-ce que j'ai bon?
Oui, ça peut ressembler à ça. Et Johan le disait, souvent les logiciels libres, sont des briques. Et en fait, du coup, quand on sait un peu faire, on peut prendre une brique par-ci, une brique par-là, et on peut construire son propre objet, son propre système d'information, ou peu importe. Et du coup, en fait, on va le faire en fonction de ses propres besoins, mais on va le faire à partir de briques qui sont existantes et dans lesquelles on n'a pas tout à réinventer. Et dans lequel et le fait de partir de briques qui sont open source, ça peut avoir des tas de bonnes propriétés. Une bonne propriété, en fait, c'est le fait de dire que bah, finalement, il y a une chance qu'il y ait des gens qui soient formés, qui la connaissent et qui sachent la manipuler. Donc, il y a une chance qu'il y ait des gens qui soient compétents pour faire ça. Et il y a une autre propriété, en fait, qui s'appelle le no vendor lock-in, qui consiste à dire, eh bien, si je me mets à tout acheter chez Durant Limited, le jour où Durant Limited double ses prix, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fais de mon entreprise? Je vais peut-être pas mettre toutes mes billes auprès d'un même vendeur, auprès d'un même fabricant de logiciels. Je vais peut-être vouloir répartir. Et en fait, le logiciel libre, par ses propriétés de tout le monde peut le copier, tout le monde a le droit d'intervenir dessus, me protège un petit peu. Donc, dans ces cas-là, en fait,
Mais dans ton schéma là, Stéphane, qui gagne de l'argent?
en l'occurrence, l'entreprise qui va typiquement embaucher des gens. Pour faire et maintenir son système d'information et de l'informatique chez elle, elle va gagner de l'argent en vendant autre chose, qui est son objet social, hein, je ne sais pas, un assureur va vendre des assurances, mais toujours est-il que les logiciels qui seront créés et qui seront maintenus et auxquels les gens vont parfois participer dans des cas de logiciels libres, ces gens-là vont être payés pour le faire. Ce qui fait que ça permet d'avoir une rémunération des développeurs, parce que ces développeurs font partie d'entreprises qui considèrent que les payer à faire du logiciel libre, c'est une bonne chose pour eux.
Mais dans ces cas de figure, est-ce que comment le logiciel libre, donc il est tripatouillé par un développeur qui bosse pour ton entreprise, hein.
Ouais.
Mais je me trompe ou généralement finalement le résultat n'est plus libre du tout?
Ben, ça dépend. En fait, il y a un intérêt pour une entreprise à redistribuer les modifications qu'elle a faites. Si je prends le logiciel que tu viens de construire et je fais quelques modifications, toi, la prochaine fois que tu vas me livrer une nouvelle version, va falloir que je réapplique mes modifications. Mes modifications, soit elles sont hyper spécifiques, elles ne parlent qu'à moi et en fait, je vais être obligé de faire ça. J'aurai pas le choix. Mais si mes modifications, c'est des améliorations de ton logiciel, et si ça change pas mon business que le reste de l'univers puisse avoir accès à ces modifications, il est beaucoup plus intéressant pour moi de te les transmettre. Parce que comme ça, en fait, c'est toi et c'est toute la communauté qui vont les maintenir, qui vont les améliorer. Et du coup, en fait, il peut être dans l'intérêt bien compté des entreprises. Que de contribuer. Et d'un point de vue individuel, c'est un moyen de payer, de, c'est un moyen pour un développeur d'être rémunéré à créer du logiciel libre. Vous voyez ce que je veux dire?
Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres business models autour du libre?
Ouais, il y en a d'autres. Mais juste pour finir avec celui-là, je voulais nuancer un petit peu ce qui était dit tout à l'heure sur le côté de ces grandes entreprises du web qui en disant qu'elles sont paradoxales. des entreprises comme Google, comme Facebook, comme Apple, sont des énormes contributrices de logiciels libres dans ce cadre-là. Soit parce qu'elles croient elles créent des choses pour elles, soit parce que dans leurs infrastructures, il y a énormément de logiciels libres auxquels elles contribuent. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là, sur cette partie entreprise contributrice. Il y a un autre modèle que j'avais envie de détailler avec vous et j'ai envie d'y réfléchir ensuite avec un petit état d'esprit en disant, mais dites-moi, quand on fait du jeu de rôle, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on fait? L'autre modèle, c'est vendre une autre version. C'est distribuer un logiciel sous deux versions. Il va y en avoir une qui va être communautaire, elle va être libre, elle va être gratuite, et puis on va en faire une autre version, et cette autre version, en fait, on va la commercialiser de manière payante. Et souvent, en matière de logiciel, ce genre de choses, ça s'est appelé des éditions entreprises. Ça fait sérieux. Et en fait, pourquoi des gens iraient acheter une autre version lorsqu'il y a une version libre et gratuite? L'une des raisons, c'est parce que cette version entreprise, elle a quelque chose en plus. Elle peut avoir des fonctions en plus qui sont pas dans la version libre. La version, oui?
On en parlait avec Alias et Johan là ce matin. Il me semble que macOS, alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, a un noyau qui est libre en fait.
Oui, absolument.
C'est un noyau Unix ou Linux, je sais plus.
Absolument, c'est un Unix. Et quelque part, enfin, c'est un petit peu différent parce que Apple, en fait, est plus dans la catégorie précédente, dans la catégorie entreprise contributrice, dans le sens où ils ne cherchent pas à être connus par le fait d'être éditeur de logiciels libres. Le fait est que dans tout le matériel Apple, en fait, porte un système d'exploitation dont toutes les couches basses sont des Unix qui sont libres. Et toutes les couches hautes, finalement, ce qui est affiché aux yeux des utilisateurs, sont eux des logiciels qui sont extrêmement propriétaires. Mais en fait, ils sont plus dans cette première catégorie. En fait, dans la deuxième catégorie, ça va plutôt être des entreprises qui vont réussir à se créer un nom autour d'un projet libre, mais qui, pour des problématiques de comment on se rémunère, vont se mettre à fabriquer un produit à côté. Mais ça peut être le produit à côté, en fait, il peut par exemple avoir des fonctionnalités que le grand, qui, dont le manque ne gêne pas le grand public, mais qu'une entreprise voudra avoir. Donc en fait, on peut se retrouver avec des versions un peu à deux vitesses, et ça peut ressembler à ce qu'on appelle du freemium actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une version gratuite que vous pouvez utiliser, mais qui un jour peut-être toucher à ses limites, auquel cas vous achèterez la version payante. Sauf que là, en fait, on a une différence de licence entre les deux, hein. C'est pas seulement une différence de prix. Le second choix, en fait, la seule, seconde chose qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est voir des entreprises qui disent, voilà, vous utilisez notre logiciel, vous avez un besoin de support, très bien, allez sur notre forum, allez discuter avec les gens. Par contre, si vous voulez un support professionnel, il vaudrait peut-être mieux acheter notre édition entreprise, parce que sur cette édition professionnelle, on va faire porter un niveau de garantie qui n'est pas le même. Il y a un troisième cas, en fait, dans cette catégorie d'entreprises qui vont s'en aller vendre deux versions, c'est qu'ils vont vendre une version qui est open source, sous licence libre, et ils vont vendre une autre version avec une licence qui, justement, n'est pas libre. Et en fait, ce mécanisme d'avoir deux versions vendues, enfin, distribuées sous des licences différentes, va permettre à un acheteur d'arrêter, de rompre la liberté des licences contaminantes dont on a parlé, et du coup, en fait, de ne pas accorder les libertés à ses propres utilisateurs. Encore une fois, tu édites un logiciel, et ce logiciel, je veux l'utiliser, mais je ne veux surtout pas que mon logiciel à moi soit libre. Or, hein, si tu as mis en place une licence contaminante, eh bien, je vais devoir faire ça. Ce qui fait que je vais devoir revenir vers toi et te demander d'accorder une autre licence. Et c'est en fait souvent une des raisons qui fait que des boîtes qui participent à l'open source se retrouvent à vendre deux versions distinctes. Une version gratuite et open source, et une version qui va être payante. Et le recul qu'on a là-dessus, c'est qu'en fait, souvent, le fait de vendre deux versions, dans beaucoup de cas, pour des entreprises, ça s'est avéré assez mauvais. Et ça s'est avéré mauvais parce que, à partir du moment où le logiciel où l'œuvre commune du logiciel est vendue sous une autre forme, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la cachotterie. Hein, j'ai pas, il y a une part des fonctionnalités qui ont été développées par l'éditeur, mais qui ne sont pas redistribuées à la communauté. Donc, il y a des choses qu'on veut offrir à la communauté, puis il y a des choses qu'on veut pas, où la communauté est pas assez bien pour ça. Et puis, il y a aussi un sentiment des contributeurs qui consiste à dire, moi, j'aimerais beaucoup participer à ce logiciel, développer des choses dessus, mais en fait, si c'est pour que mon travail soit vendu, et que je n'y touche, rien, c'est un peu un coup de canif dans le contrat et dans justement cet esprit de communauté pour de l'agile. Ce qui fait que le fait de vendre une autre version, ça peut créer une mauvaise émulation et cette logique à deux vitesses peut être plutôt mal prise par la communauté. Et j'ai connu bon nombre d'entreprises qui se sont mordu les doigts de ce type de politique. Je vais en venir maintenant à un autre modèle qui lui a fait montre d'être beaucoup plus bénéfique. C'est le fait de dire, OK, mon logiciel, il est gratuit, mais mon entreprise, elle va vendre des services payants. Je vais vendre des formations, des installations, je vais faire des adaptations de mon logiciel pour votre entreprise, ce sera très bien. Et puis je vais assurer la maintenance du
En fait,
support.
tu te vends comme consultant, en quelque sorte, tu te vends comme consultant au sujet de ta propre création, quoi.
Et ouais, tu vends ton expertise. Et d'ailleurs, est-ce que tu as acheté mon dernier livre sur mon logiciel? Et ainsi de suite, en fait. Quelque part, tu dis le logiciel est un le logic, mon logiciel libre, c'est un bien auquel je contribue et qui est gratuit. Et en fait. Eh bien, j'ai une expertise qui est reconnue, quoi, là-dessus, parce que c'est moi qui en suis l'auteur. Et en tant que contributeur, en fait, j'ai une espèce de barrière à l'entrée qui fait que si vous avez besoin de services autour de ce logiciel, vaut mieux venir me voir moi, parce que je suis plutôt meilleur que les autres. Et donc, un autre cas dans lequel les entreprises vont vouloir prendre ce type de service. C'est-à-dire, ce logiciel, il est libre, mais le jour où j'ai un gros problème et que ça arrête ma production, que mes camions ne peuvent plus livrer parce qu'on a perdu l'information, moi, je veux pouvoir décrocher mon téléphone et appeler quelqu'un qui va s'en occuper. Je ne veux pas aller sur le forum en disant, tiens, c'est marrant, j'ai un problème, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Tiens,
Et
vas-y,
du
tape cette ligne de commande dans un terminal, ça
coup.
devrait
Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, il y a toute une problématique. À partir du moment où les logiciels libres sont rentrés dans des entreprises et deviennent des choses qui sont importantes pour ces entreprises, qui sont critiques, il y a une problématique de garantie et de temps d'intervention. Ce qui fait que avoir du logiciel libre et avoir du service, ça va plutôt bien ensemble. Un autre cas, c'est dans lequel on peut créer du service autour du logiciel libre. On peut donner un exemple avec WordPress. WordPress, c'est le moteur numéro un de blog. On peut le télécharger, on peut l'installer. Mais en fait, il serait tellement plus simple d'utiliser le service WordPress.com. Puis ce service, en fait, il commence gratuit, mais rapidement, on peut avoir envie de payer le service pour avoir des options qui sont intéressantes. Donc en fait, on a un avantage concurrentiel en étant les gens qui créent le logiciel, parce qu'on a l'expertise. Et en fait, ce modèle-là de vente du service, eh bien, il fait plutôt ses preuves. Parce qu'il est plus facile de créer une émulation lorsqu'on vend du service. Admettons que je suis une entreprise qui vend du service autour de Toronto, sur un logiciel sur lequel je travaille. J'apprends qu'il y a une entreprise à Paris qui veut faire la même chose, qui veut vendre du service. C'est pas véritablement des concurrents parce que je vais pas forcément aller travailler avec des clients parisiens tout de suite. Mais si eux, en fait, ils deviennent contributeurs, eh bien, ça fait plus de gens qui vont contribuer à mon logiciel. Ça va augmenter mon image de marque et ça va être gagnant pour tout le monde. Et quelque part, en fait, la communauté des contributeurs va être renforcée par un écosystème d'entreprises qui vont tous contribuer à leur tour pour pouvoir vendre du service. Donc voilà pour ce business model. Je vais rapidement citer deux autres modes de financement. Le premier, en fait, c'est quelque chose qu'on voit souvent, qui est fait de dire que beaucoup de logiciels libres qui ont été faits par des entreprises sont libérés en bout de course. C'est-à-dire qu'il y a une première vie du logiciel sous un mode propriétaire, et lorsque l'entreprise se détourne de ce logiciel pour faire que le logiciel puisse continuer à vivre, parfois en pensant aux clients qui continuent à l'utiliser, eh bien, ces entreprises libèrent le logiciel de manière à ce que les gens puissent continuer à en bénéficier. C'est quelque chose qui me semble, alias, complètement en synergie avec ce qui a été ta démarche.
Oui, tout à fait.
Je voulais citer enfin un dernier cas qui me semble vraiment aussi en vibration avec ce qu'on peut vivre sur les jeux de rôle. C'est dire, j'ai une communauté, et cette communauté, en fait, elle est autour de mon projet parce qu'ils sont fans. Et quelque part, en fait, ils considèrent que ce projet-là, il a sa place dans l'univers, et ils sont capables de faire des choses pour que ce projet puisse exister. Et en fait, ce mode de financement, ça consiste à demander des dons, vendre des produits dérivés, des t-shirts, des mugs, peu importe, et quelque part, donner aux gens qui aiment le projet l'occasion de contribuer en s'associant un peu au projet, en portant un t-shirt à son effigie, avec ce genre de comportement-là. Et en fait, un exemple qui est pas si petit de projet libre qui régulièrement demande des dons, c'est Wikipédia, qui considère, qui dit, voilà, bah, on est un bienfait pour l'humanité, on a un coût en bande passante qui est pas rien, et bah, il va falloir que certains d'entre vous nous payent si vous nous aimez vraiment. Et ça marche. Et dans ce cadre-là, toujours dans cette idée de traiter sa communauté comme des fans, eh bien, j'avais envie de vous raconter juste rapidement ce qui s'est passé pour un logiciel qui s'appelle Blender, qui est un logiciel de vidéo, de vidéo 3D, enfin un modeleur 3D pour faire de la vidéo. Et Blender, en fait, a eu une première vie. Est devenu un logiciel libre en 2002. Et pour permettre à l'entreprise qui était éditrice de Blender de faire cette libération, en fait, ils ont décidé de mener une d'ouvrir une campagne et de communiquer et de faire quelque chose qui s'appelait Free Blender, c'est-à-dire libérons Blender. Et ils ont réussi comme ça à lever 100 000 euros en 7 semaines. Et on a là, en 2002, un petit quelque chose qui donne un goût de crowdsourcing. C'est-à-dire, finalement, si vous nous aimez, si vous voulez qu'on aille plus loin sur ce projet, eh bien, venez participer. Voilà, en fait, le petit tour d'horizon des modes de financement que je voulais partager avec vous.
Alors, à moins qu'il y ait des commentaires, du coup, ça me permettait d'embrayer sur un sujet qui était plus global, qui était justement le financement de la créativité en général, hein, pas uniquement dans le logiciel libre. Puisqu'en fait, Souvent derrière l'idée de libre, il y a l'idée de gratuité, c'est-à-dire que on diffuse sa création gratuitement. Les gens peuvent se procurer la création sans rien payer, et également ils peuvent aussi modifier la création, créer des œuvres dérivées sans rien payer, quoi. Et donc effectivement, c'est la question de partir du moment où en tant qu'auteur, en tant que créatif, on a cette position éthique. Enfin, éthique ou stratégique, hein, c'est à chacun de voir, de partir sur du libre et sur du gratuit. Effectivement, comment on fait pour dégager un revenu? Bon, il y a plein de choses que tu as déjà traitées dans le cadre du logiciel libre, qui, à mon avis, sont complètement extrapolables à d'autres domaines. Tu parlais du hobbyiste, du concepteur de logiciel qui faisait en fait ça sur son temps libre, qui était des fois informaticien, on va dire la semaine, et puis développeur libre masqué le week-end, quoi. Il y a un bouquin qui s'appelle La double vie des écrivains, un bouquin de Bertrand Lahire, qui explique en fait que la plupart des écrivains sont aussi dans cette démarche où en fait il y a assez peu d'écrivains qui vivent de leurs droits. Et généralement, ils ont toujours un boulot à côté, en fait. Il y a même des fois, derrière, il y a même quasiment un concept sous-jacent qui dirait que, en fait, travailler dans la créativité pure n'a pas de sens et qu'il faudrait forcément avoir une autre activité, pour avoir en fait cette rémunération, pour garantir une créativité pour garantir des créations qui soient libres de contraintes financières, en fait. Bon, après, ça, c'est une position philosophique, hein, dont on pourrait débattre, hein. Est-ce que vraiment le fait de vendre sa créativité la corrompt? Je sais pas.
Et pour aller dans ce sens-là, en fait, il y a des choses que l'on connaît sur la motivation et sur les motivations dites intrinsèques ou extrinsèques. Et la question, c'est lorsque je me lève le matin pour faire quelque chose, je le fais pourquoi? Est-ce que je le fais pour moi, pour des raisons profondes? Ou est-ce que je le fais parce que ça va payer le loyer et puis parce que ça me permettra de partir en vacances? Et en fait, on sait que dans le deuxième cas, on est mal barré pour être créatif. Et qu'en fait, il n'y a que le premier cas qui marche.
Je peux faire une remarque là.
Oui, bien sûr, Lionel.
En fait, sur la question du financement de la création, et la question que tu poses qui est très très intéressante de savoir si je vends ma créativité, est-ce que ça me corrompt? Moi, je pense qu'il y a peu d'artistes, tu vois, ou de créateurs qui sont dans cette marchandisation directe de leur création. Il y en a, hein, il y a des systèmes, hein,
Surtout que vu le système, il y a peu de cas où c'est rentable.
Mais en fait, le créateur, lui, ce qu'il achète, c'est du temps, en fait. Il a besoin d'une forme de. Il a besoin de temps pour créer et d'indépendance. Parce qu'il faut toujours une sphère d'indépendance, tu vois, intellectuelle pour pouvoir vraiment créer et s'investir. Donc le créateur, lui, il a besoin de temps. Et il y a plusieurs, après, façons de dégager un temps de création pour une personne qui veut se consacrer à une activité créative. Ça peut être une forme de rémunération type droit d'auteur. Il y a des gens qui sont des salariés. C'est pas la même chose, mais ça existe. Et puis, il y a toute une réflexion actuellement pour savoir s'il ne faut pas trouver d'autres formes de financement de la création. Il
Tu
y a les
parles,
questions de revenus
ouais.
de base, par exemple.
Excuse-moi, avant de parler du revenu de base, tu parles de salariés. Je vois au moins un exemple. C'est quand même bien de pouvoir citer des exemples pour que les gens situent.
Par
Il y a
exemple,
Croc, qui est un auteur de jeux société, qui travaille pour Asmodée, et en fait, il est salarié. Il ne vide pas. En fait, il conçoit des jeux, mais il ne touche pas de droit d'auteur dessus. Il touche un salaire fixe.
Il y a la plupart des créateurs aux États-Unis, en fait, quand ils créent dans le cadre d'une entreprise, par exemple les scénaristes d'Hollywood, ils sont pas vraiment reconnus comme auteurs, ils sont reconnus comme salariés. Alors bon, il y a tout un débat pour savoir quel est le bon régime. Il y a des avantages, il y a des gros inconvénients aussi, hein. Le plus gros inconvénient, c'est que si tu fais quelque chose qui a énormément de succès, tu seras pas payé plus, ce qui peut être un très gros désavantage, quoi, pour l'auteur. Mais ça leur assure aussi une situation qui n'est pas forcément moins fragile que celle des auteurs dans le cadre français, quoi.
Pour la petite anecdote, si on prend l'exemple d'un auteur dont comment l'utilisation des licences a pu générer énormément de profits, il y a le scénariste de bande dessinée Alan Moore. Et en fait, il y a eu pas mal de films à gros succès, hein, qui ont été dérivés de ses bandes dessinées. Il y a Watchmen, V pour Vendetta, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Bon, je pense pas que ce soit celui-là qui a généré le plus de profits, mais bon, il y en a d'autres dont j'oublie le nom. Et en fait, il a tellement détesté la plupart des adaptations cinématographiques de ses œuvres qu'il a renoncé, en fait, qu'il a pour pouvoir les comment pour pouvoir les dénier, il a renoncé en fait, il a renoncé à ses royalties sur ses. Et donc, Alan Moore, en fait, ne touche pas un dollar des adaptations cinématographiques de son œuvre. Bon, après, c'est une position qui est assez radicale parce qu'on pourrait imaginer que bon, peut-être qu'il a suffisamment de revenus par ailleurs pour pouvoir en vivre. Et donc, du coup, il se moque de l'argent que pourrait gagner le cinéma, mais on peut aisément imaginer qu'il passe sans doute à côté de peut-être de millions de dollars de royalties, quoi.
Je pense que c'est peut-être. Enfin, c'est drôle parce que c'est le cas de tellement peu. Dans la plupart des cas, la création est faite sans forcément avoir une rémunération en face, quoi.
Il y avait
Et enfin,
les
c'est.
coupes de la SACEM notamment. Je mettrai un lien sur. En fait, on voit comment quand on voit la façon dont la SACEM redistribue les droits d'auteur. En fait, ça fait ce qu'on appelle une courbe de Pareto. C'est-à-dire que grosso modo, pour faire très très simple, il y a 5 entre grosso modo, il y a 2% des auteurs qui touchent 98% des droits d'auteur en France.
Oui, et
Et
puis derrière, il y a quand même aussi le fait qu'on a un système, on a un système d'industrie de la culture qui fait que les auteurs touchent très peu du prix total
voilà.
de leurs œuvres
Et dans
lorsqu'ils
cet
sont.
article, ils expliquaient que par exemple le budget de la SACEM, ça pouvait générer 100 000 SMIC. C'est-à-dire que si on disait bah et au lieu de ça, en fait, en réalité, de personnes touchant plus que le SMIC annuel grâce aux revenus de la SACEM, je crois qu'il y en a moins de je sais plus, c'est moins de 1 000 ou moins de 2 000,
Je crois que c'est 3 000 à peu près.
3 000, ouais. Donc on est
3 000
vraiment sur une
auteurs.
distribution pyramidale, quoi, hein, des droits d'auteur. Le système du droit d'auteur, c'est vraiment un système qui est conçu, c'est un système vraiment bah, de type on va dire, c'est du Piketty dans le texte, hein, presque. Hein. Vous connaissez peut-être l'économiste Piketty, quoi. C'est une distribution de type 19e, des richesses de type 19e siècle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'a comment il y a beaucoup d'appelés et très 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 peu d'élus, quoi.
Ouais, puis ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a de plus en plus d'appelés, quoi. C'est-à-dire qu'en attendant, il y avait des études qui avaient montré qu'au niveau qu'avait fait la Commission européenne, qui montrait qu'il y a 25% de la population européenne qui se consacre d'une manière ou d'une autre à une activité créative et qui publie, notamment grâce à Internet. Tout à l'heure, la citation que tu citais, hein, de Benjamin Bayard, l'imprimerie a permis aux gens de lire, Internet leur a permis d'écrire. Ça veut dire que surtout, pas que écrire, ça leur a permis de publier avec la potentialité de toucher un public. C'est ça qui est énorme. Sans passer par un intermédiaire qui, avant, te garantissait, enfin, au moins t'offrait l'opportunité d'avoir un public. Et ça, maintenant, avec Internet, les gens, ils ont la possibilité d'avoir une activité créative et d'aller essayer de toucher un public. Mais d'un autre côté, vous avez un système de rémunération qui, lui, a pas tellement évolué et qui continue à concentrer, les rémunérations sur un tout petit monde d'auteurs. Donc du coup, comment on fait pour combler ce grand écart qui est vraiment problématique, hein? Et j'avais une phrase que j'aimais bien de quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans les licences libres en France, qui s'appelle Jérémy Nettel, qui disait: on est passé d'une société ouvrière à une société œuvrière. Et comment on fait dans une société ouvrière pour garantir aux gens d'avoir un minimum d'indépendance pour se consacrer à la création et arriver à toucher un public?
Alors, pour revenir avec juste, on voit quand même que dans ces cas-là, il y a certains qui arrivent à tirer leur épingle du jeu malgré les inégalités du système de paiement par droit d'auteur. notamment dans le milieu de la littérature indépendante ou de la musique indépendante, il y a quand même des groupes et des auteurs qui arrivent à mener une vie, à toucher un revenu en fait sans le support de gestionnaires de droits. Donc ça peut fonctionner quoi. Hein. Même des fois il y a des succès assez impressionnants puisqu'il y a des en auto-édition sur Amazon.com. Il y a des bouquins qui sont vendus à 1 million d'exemplaires. Hein. C'est des cas qui arrivent assez fréquemment, quoi.
Je me demande à quel point ils arrivent vraiment fréquemment, et je me demande s'il n'y a
Bah
pas
oui, c'est
aussi
ça. Il y
une
a peut-être sans
petite...
doute une courbe de Pareto réputationnelle, en fait.
Oui, et le fait qu'on en entende parler, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas si courants que ça aussi. Il
Ouais,
faut se méfier de ce genre de
ouais.
choses.
Tout à fait, il y a des chances que la courbe, en fait. Même si on passe, même si effectivement, on se passe des sociétés gestionnaires de droits, des éditeurs, des producteurs, effectivement, cette courbe de Pareto, elle est sans doute, elle existe parce qu'en fait, c'est une économie réputationnelle, quoi. C'est ceux qui sont les plus célèbres qui vont générer du revenu, quoi. Et donc, du
L'autre
coup,
exemple que
ça,
j'entends
voilà, il y
parler.
a Lionel, la solution du revenu de base.
Oui, il y a ça. L'autre exemple qu'on peut citer, c'est les youtubeurs, par exemple. C'est des gens aussi qui, de plus en plus, des vidéastes qui se lancent sur YouTube et qui essayent de dégager des revenus par la publicité. Mais si tu regardes, la courbe de Pareto, elle existe aussi. En fait, dès que tu es plongé dans une économie de l'attention, t'as tendance quand même à retomber dans le problème de la courbe de Pareto. Alors évidemment, le revenu de base, c'est la solution qui paraît la plus, je dirais,
Équitable.
la plus équitable pour remettre tout le monde à égalité devant le temps de création, quoi. C'est-à-dire, tu garantis à toute personne un revenu de base, c'est-à-dire un revenu inconditionnel, qui lui permettra en fait de s'assurer des conditions de vie décentes, pour qu'elle puisse se consacrer à des activités qui pourraient être n'importe quel type d'activité, hein, ou voire même ne rien faire. Hein. Mais pour les créateurs, évidemment, ça aurait un impact, sachant que ça n'exclut pas le fait de pouvoir aussi toucher des revenus complémentaires. C'est un minimum, hein, c'est pas un plafond, bien sûr. Mais le problème du revenu de base, c'est que politiquement, il faut réussir à le faire passer. Et c'est loin. Voilà, c'est-à-dire que ça paraît, c'est presque une solution trop belle, quoi. C'est-à-dire que c'est la solution à tellement de problèmes, mais politiquement, il faut réussir à faire passer un tel changement de paradigme pour la société que c'est pas du tout assuré
Ah, alias,
qu'on va
t'avais sorti un article là-dessus, tu l'avais appelé, enfin c'était un, comment, tu posais la question de savoir si c'était un permis de glander.
Oui, tout à fait. C'était un des premiers articles que j'avais fait sur le revenu de base. J'en ai fait quelques autres, en effet. Mais oui, le fait est qu'un des premiers trucs qu'on va entendre lorsqu'on parle du revenu de base, c'est que les politiques conventionnelles, on va dire, vont dire, mais en fait, vous avez payé des gens à rien foutre. Et ça a l'air d'être le. En fait, on en reste un petit peu dans une moralité qui vient du 19e siècle et plus loin, qui vient un petit peu de la morale protestante, qui est que tu dois gagner ta vie à la sueur de ton front, tu dois travailler, sinon tu es un moins que rien. Et là, l'idée d'avoir un revenu de base qui est donc effectivement inconditionnel, on précise bien, c'est RBI, on parle revenu de base inconditionnel, qui est un revenu de survie qui permettrait à quelqu'un de ne pas avoir à travailler. Et pour beaucoup de gens, c'est impensable d'imaginer que on paye quelqu'un à rien faire. Et là encore, on a un changement de paradigme qui est, à mon avis, assez clair au niveau du monde actuel, où on va devoir de plus en plus payer des gens à rien faire parce qu'il va y avoir de moins en moins de gens de choses à faire.
Et la question que ça pose, en fait, c'est de savoir si aujourd'hui la société voit la dignité comme un droit, en fait.
Exactement.
C'est-à-dire que, effectivement, jusqu'à présent, même si on prend des revenus comme le RSA, ce sont des revenus qui sont conditionnels. Et donc, législativement, en France, en fait, on considère que mener une vie dignement, c'est-à-dire avoir suffisamment de ressources pour pallier à ses besoins primaires, quoi. Eh bien, ça se mérite d'une façon ou d'une autre. Il faut au moins jouer une comédie de mérite pour pouvoir obtenir ce revenu minimum, quoi.
Pour aller plus loin, on a un truc que moi je trouve assez affolant, c'est qu'on a un certain nombre de droits qui sont des droits de l'homme, qui ne sont pas garantis en fait dans les faits. Le droit à un logement, le droit à une vie décente, le droit de se nourrir, le droit d'avoir une d'être en bonne santé, c'est des choses qui, si mes souvenirs sont bons, sont quand même dans les droits de l'homme, et bah, en fait, dans les faits, non. Il faut que si on ne paye pas, on n'a pas.
Il y a des initiatives que je trouve intéressantes, même si on est encore loin du revenu de base inconditionnel. Il me semble par exemple qu'en Norvège, du moment que tu as un projet artistique, tu vas pouvoir toucher un revenu. Même si ton projet, en l'occurrence, touche très peu de public. Et c'est notamment pour ça qu'en Norvège, il y a tout un tas de groupes de black metal qui ont pu se lancer, alors qu'ils vendaient, ils pressaient leurs CD en 200 exemplaires et qu'ils avaient absolument pas moyen de vivre de leur vente de disques. Et en fait, ils étaient payés du fait qu'ils avaient un projet artistique, quoi. Bon, il y a quand même une condition, parce que là, en l'occurrence, en quelque sorte, il y a une condition de créativité. C'est pas un permis de glander.
Sont les subventions en fait.
Ouais, voilà. Sauf que,
Et
elles sont distribuées de façon un peu plus éclatée qu'en France où on a souvent des subventions pour des gros projets, quoi.
Mais effectivement, bah, on a même des jeux de rôle et des jeux grandeur nature qui apportent, qui justifient un projet artistique et pour ça, des subventions.
Il y a une personne qui s'appelle Bernard Stiegler, qui est philosophe en fait. Qui réfléchit beaucoup autour du régime de l'intermittence et qui dit que vu l'évolution de la société, on va tous finir par être intermittents du travail. Donc, il finit par dire qu'il devrait y avoir un système qui ressemblerait à l'intermittence, qui serait un entre-deux entre le revenu de base et quelque chose qui resterait quand même conditionnel, notamment à des projets, où on puisse passer de situations où voilà, on serait financé pour préparer des projets, des moments de travail. Et il imagine voilà un espèce de revenu de contribution. Je trouve ça intéressant comme idée. C'est-à-dire que voilà, on puisse en ayant un projet de contribution, un projet qui pourrait être une contribution à un logiciel libre, qui pourrait être de la création artistique, avoir un statut comme ça plus large que celui d'intermittent.
Mais dans les faits, si tu veux, je vais prendre mon exemple très personnel. C'est quelque chose avec un petit peu de, avec un peu de prise en main personnelle. C'est quelque chose que tu peux rendre réel aujourd'hui. Pour prendre mon cas très personnel, moi, dans un mois, je quitte mon travail salarié de conseiller agricole. Et entre mes indemnités de départ. Et puis comment le fait que je vais créer une entreprise mais qui est concentrée dont l'objet est le fait que je vais être auteur, donc c'est une entreprise de créativité, eh bien je vais et puis aussi mon épargne personnelle, mais mon épargne personnelle entre guillemets elle vient des salaires que j'ai eu avant, quoi. C'est-à-dire que j'ai décidé de pas dépenser mes salaires au jour le jour, d'en dépenser qu'une partie et d'épargner. Eh bien là j'ai 4 ans d'économie, c'est-à-dire que je sais que je peux être créatif pendant 4 ans sans dégager aucun revenu, et avec la porte de secours qui est de bah, au bout de 4 ans, si je dégage toujours aucun revenu de la créativité, eh bien il me reste la possibilité de rechercher à nouveau un travail salarié. D'ailleurs, éventuellement en me basant sur cette expérience de 4 ans d'auteur en freelance, pour éventuellement trouver un travail salarié qui corresponde plus à mes aspirations. Je pense qu'il va être beaucoup plus facile pour moi, par exemple, de trouver un travail dans la culture. Tu vois, moi, si tu veux, j'ai un diplôme en agriculture. Quand j'ai sorti de l'école, c'était absolument impensable de postuler dans des travails salariés dans le domaine de la culture, quoi. Alors, agriculture, culture, attention, il ne faut pas confondre. Et donc, sauf que là, si j'ai cette expérience d'auteur en freelance pendant 4 ans, si je veux ensuite trouver un job dans la culture, je pense que, en fait, en réalité, j'ai un CV, quoi, c'est possible. J'aurais fait des conférences, j'aurais publié des bouquins, j'aurais fait des podcasts, j'aurais fait tout un tas de trucs qui parlera bien plus qu'un diplôme, quoi, et qui permettra de retourner dans le monde du travail assez facilement, quoi.
Non, mais c'est intéressant parce que moi j'ai souvent rencontré des exemples de gens qui finalement arrivent à se bricoler une sorte de revenu de base. Parce que c'est ça en fait, hein, quelque part.
Ouais, voilà, ouais, tout à fait, c'est la
La
démarche. Ouais.
question c'est comment est-ce qu'on pourrait l'en faire, l'intégrer dans quelque chose qui serait socialement reconnu et organisé, quoi.
Bah, je sais que mon approche, qui est une approche de simplicité volontaire, elle est que de se dire que à mon petit niveau, je peux pas comment, je peux pas influer sur les choix de la société, ou en tout cas, je peux pas attendre que la société change. Donc, si je veux, tout ce que, par contre, ce que je peux faire, c'est opérer des révolutions personnelles, c'est changer mon mode de vie. Et en fait, c'est ça qui va influer sur. Bon, alors il y a d'autres solutions. Tu peux faire du militantisme, tu peux voter, tu peux t'exprimer. Mais le fait aussi de mettre en place des révolutions personnelles, ça fait partie des choses qui, à mon avis, vont changer la société à terme, quoi. C'est évident que si on se programme pour dire aujourd'hui on peut pas vivre de la créativité parce que voilà on est sur une économie du droit d'auteur, sur une économie de l'attention, donc c'est forcément on est dans la cour de Pareto, donc il y aura que ceux qui sont en haut de la pyramide qui vont en vivre. Effectivement, si mentalement on vit dans ce paradigme, forcément c'est l'échec. Et donc l'idée c'est de revoir ces paradigmes personnels et d'essayer de trouver des solutions qu'on peut mettre en place sans attendre effectivement une manne du gouvernement ou un changement de la société, quoi.
Et tu sais, pour moi, ça rejoint un peu tout ce qui est libre, ce que tu dis, dans la mesure où si après tu expliques aux gens, où tu communiques un peu sur comment tu fais, tu partages aussi ta connaissance, ton expérience, et d'autres, tu peux donner envie à d'autres personnes de faire pareil. Et c'est comme ça que ça peut commencer, tu peux commencer un début de changement, quoi.
Sachant que mon projet il est aussi communautaire, je vais m'expliquer. L'idée en fait pour pouvoir vivre de la créativité, c'est d'avoir. Moi j'ai une approche que j'appelle zéro charge. C'est-à-dire que l'optique c'est que la créativité ne me coûte rien, ou en tout cas on va dire un euro symbolique. Je le fais. On en parlait avec Alias tout à l'heure. Je le fais notamment en limitant un petit peu les conventions qui sont souvent des. Enfin, et je le fais aussi en faisant pas mal de crowdsourcing. Johan, puisque tu es parmi nous, bon, c'est du micro-crowdsourcing, mais ça me dépanne vachement. Tu as développé, enfin, comment je t'ai demandé si tu pouvais me faire un wiki 1000 vœux, ce que tu as fait très, très généreusement. Bon, il est encore visible par personne parce que je ne l'ai pas rempli, mais l'idée c'est qu'à terme, tout ce que j'ai produit pour l'univers de 1000 vœux, je vais pouvoir le mettre dans ce wiki pour. Parce que du coup, 1000 vœux, ça va être libre, c'est-à-dire que les bouquins, tu peux les télécharger gratuitement. Les impressions à la demande, jusqu'à présent, il y a des, je touche une marge auteur dessus, je vais la faire sauter, donc les bouquins seront à prix coûtant. Grâce à des projets un petit peu crowdsourcing comme ça, bah, donc il y aura le wiki 1000 vœux, donc on sera vraiment dans une démarche de libre, c'est-à-dire qu'on pourra arpenter l'univers autrement qu'en lisant des bouquins ou des PDF, on pourra l'arpenter de façon intertextuel, et je pense d'ailleurs que c'est entre guillemets pour c'est l'avenir de la lecture. Personnellement, je réalise que la plupart de ce que je lis en fait c'est intertextuel, quoi. Je lis beaucoup plus de blogs ou de choses sur internet qui sont avec une navigation désordonnée que je ne lis en fait de bouquins, quoi. Je lis toujours des bouquins, mais en termes de nombre de signes, c'est complètement écrasé par l'intertextualité, quoi. Et l'idée en fait, en contrepartie, l'idée que il y a une contrepartie à toute cette gratuité, c'est aussi de demander un soutien bah, de la part d'une communauté de lecteurs. Sur le blog Outsider, il y a une page qui est consacrée au soutien. Alors au début, j'évoquais juste la possibilité de me faire de faire des versements par PayPal. Il y a quelqu'un qui s'appelle Lionel Dricot qui a lui il va assez loin dans l'appel aux dons, puisque en fait il propose un nombre de moyens de paiement assez faramineux, hein. Ça va des bitcoins, il donne aussi ses coordonnées bancaires, il y a Flatter, enfin il propose tout un tas, je sais plus combien il y a de moyens de paiement, il y en a au moins une dizaine, hein, qu'il propose. On mettra ça en lien d'ailleurs, ce que fait Lionel sur le prix libre. Je propose du prix libre. Alors, sachant que comme je vais faire sauter le paiement sur les impressions à la demande et sur les PDF, le prix libre ce sera uniquement sur les livres artisanaux. C'est-à-dire que je fabrique des exemplaires de mes bouquins, mais en artisanal, je les imprime à la maison, puis je fais une reliure, tu vois, un petit peu punk, un peu do it yourself, un peu personnalisé. Et en fait, les gens peuvent acheter ça en prix libre, mais du coup, concrètement, ce qui rémunère ils rémunèrent pas du droit d'auteur sur là-dessus, ils rémunèrent uniquement un travail d'artisanat et puis un soutien actif à l'auteur en fait. Et mentalement en fait, quand je fais un livre artisanal, je finance ma créativité, enfin entre guillemets par une activité artisanale quoi. Et la et le dernier chose, c'est un appel effectivement, un appel au crowdsourcing à l'aide communautaire, puisque notamment le soutien majeur qu'on peut apporter à mon activité de créateur, c'est de produire des créations dérivées. Parce que ça me permet, en fait, ça permet de capter de l'attention sur mon travail, quoi. Plus il y a de gens qui vont faire des rapports de parties, plus il y a de gens qui vont faire des travaux dérivés de mes propres travaux, ben plus ça me permettra, entre guillemets, de capter l'attention sur mon propre travail. En parler du consulting, ça me permettra aussi, qui sait pourquoi pas, effectivement, de me vendre en tant que consultant sur les univers que j'ai créés. C'est-à-dire que si un éditeur veut publier un bouquin qui se passe dans l'univers de Milvaux, il peut éventuellement me faire appel à mes services en tant que consultant, quoi. En tant que consultant sur l'univers, quoi. S'il y a des gens qui peuvent faire du jeu vidéo ou du cinéma dans l'univers de Milvaux, ils peuvent faire appel à mes services en tant que consultant, quoi. Donc c'est des stratégies que j'essaye de développer. L'idée c'est de montrer que bah, effectivement on peut le droit d'auteur est pas quand on est écrivain notamment, le droit d'auteur est loin d'être la seule source de revenus possible, voire même alors c'est un pari que je fais, peut-être que je vais rétro-pédaler dans quelques années, mais j'ai tendance à penser en fait que le droit d'auteur c'est le pire choix possible. C'est-à-dire que c'est vraiment 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 la roulette, quoi. Il y a rien de plus aléatoire à la limite comme moyen de financement que le droit d'auteur, quoi. Ouais. Alors, comme la roulette, évidemment, ça fait rêver parce qu'il y a des gains énormes, mais voilà, forcément, la banque est toujours gagnante au final, quoi.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on se lance dans le, à mon avis, quand on se lance dans le droit d'auteur, on se lance un petit peu dans une logique industrielle et
ouais, tu dis, je vais être J.K. Rowling, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais alors, ouais, J.K. Rowling, elle a quand même eu un petit peu un produit qui se démarquait un poil, mais il y a quand même aussi le côté. C'est un exemple parmi les milliers de bouquins qui sont sortis la même année. Et la plupart de ces bouquins sont quand même souvent des produits qui sont formatés de telle façon, que ça soit volontairement ou pas. Mais quand un éditeur va lire un livre, il va se dire « Ah, ça correspond à la tendance du moment, ça a des chances de se vendre, et c'est ça a des chances de se vendre. C'est pas assez bien, mais ça, je peux le vendre. » Et c'est logique, quelque part, parce qu'on parle d'une industrie.
Tout à fait.
Mais effectivement, le rentrer dans ce jeu-là, ça risque d'être à terme de devoir se poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour vendre ?»
Ça pose la question d'uniformisation, en fait, dans le sens où effectivement on va dupliquer. Je sais plus qui faisait la remarque que, par exemple, l'industrie hollywoodienne ne produisait plus que des réadaptations du monomythe, en fait. Les mecs, ils ont compris que quand ils sortaient des films qui étaient du monomythe, quand tu sors Matrix, quand tu sors Harry Potter, ça cartonnait à mort. Et en fait, tu réalises que dans la plupart des films à gros budget hollywoodiens, c'est du monomythe, quoi. C'est le parcours du héros vu par Campbell, quoi, et c'est en fait c'est quasiment une recette unique dupliquée. Et des choses qu'on voit par exemple dans le mouvement de l'art outsider peuvent pas exister dans une économie artistique industrielle, parce que c'est beaucoup trop aléatoire. Et effectivement, le fait de connecter le financement de la créativité à du droit d'auteur. Fait qu'en fait tu vas appauvrir les champs de la créativité, quoi. En fait il y a tellement pas le droit à l'erreur que du coup forcément c'est un peu toujours la même histoire qu'on va raconter, quoi.
Alors sans vouloir faire une comparaison trop forte avec ton cas personnel, Vincent Van Gogh, il me semble qu'il a vendu qu'une seule toile. Donc ça tendrait à prouver que pour lui, le business model qui consistait à dire je vais vendre mes œuvres à des clients, des œuvres uniques à des clients, ça a pas très très bien marché pour lui. Et qu'effectivement, il y a peut-être lieu sur ce maintenant qu'on est sur des choses sur lesquelles on a de la dématérialisation, sur lesquelles on peut faire participer des gens très facilement. Il y a peut-être vraiment moyen de sortir du modèle de je crée une œuvre et je la vends et je vends un droit à la reproduire et je fais que les gens vont acheter des reproductions.
Je pense qu'il faut au moins se donner la permission d'expérimenter, entre guillemets.
Ouais.
Si se dire, voilà, moi personnellement, j'ai un système qui est basé sur l'épargne. À partir du moment où tu as un revenu de secours, se dire, ça me donne le droit de faire des expérimentations.
Absolument. Et c'est marrant, les réflexions tout à l'heure, en fait, sur les. Quelque part, sur on peut regarder les choses comme la place de l'artiste dans la cité. Hein, et ça me rappelle toujours mes parties de civilisation. Dans les parties de, dans, quand on joue à civilisation, il y a toujours un moment où, en fait, on commence à avoir tellement de gens dans ces villes que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de ne pas les mettre en production, à les extraire des choses, mais les dire non, non, ils vont devenir pour certains des ingénieurs et pour d'autres des artistes. Et que ça, en fait, ça, c'est la bonne façon de transformer les choses. Et en fait, quand et l'ingénierie et le travail et la créativité artistique sont vues que sur. Ne, si on ne veut les juger que sur leur productivité, on rate peut-être quelque chose, quoi, effectivement.
Bah, c'est clair que beaucoup de civilisations antiques, on ne s'en souvient pas forcément pour leur création industrielle.
Voilà.